Je vais vous parler de la lectio divina. C'est surtout dans le cadre d'une expérience intéressante qu'on a depuis quelques années en Suisse romande, qui s'appelle l'école de la parole en Suisse romande, que j'ai appris à connaître cette démarche de se mettre à l'écoute du Christ à travers le texte biblique, selon cette ancienne méthode de la lectio divina, que veut dire ce terme, quelle est son histoire et quelle est sa méthode. Voilà les différentes étapes de cet exposé, que vous pouvez suivre aussi avec le binaire, en tout cas les titres des différents chapitres. Tout d'abord, le terme lectio divina, c'est un terme un peu exotique, mais qui commence à faire partie de notre vocabulaire d'église. Qui l'a déjà entendu parmi vous? Ah ben, c'est impressionnant. La quasi-majorité. C'est une méthode aussi ancienne que l'église. Qu'on utilise ce terme ou qu'on l'utilise pas, c'est une méthode d'église qu'on retrouve dans les différentes traditions aujourd'hui. Et elle a également des profondes racines dans l'Ancien Testament. Elle est divine de deux manières. Tout d'abord parce que, à travers le texte, je découvre la parole de Dieu. Elle est divine quant à son objet, qui est la parole de Dieu. Et elle est divine aussi par rapport à son sujet, le lecteur, qui, en lisant le texte biblique, se transforme de plus en plus à l'image du Christ qui lui parle à travers le texte. La parole nous est donnée pour nous transformer ou transfigurer, ou nous transformer, comme le dit l'apôtre Pierre, pour ressembler à la nature divine, ce que les orthodoxes diront la divinisation, ce que nous appelons la sanctification. En tant que protestant. Donc, d'abord quelques jalons pour rappeler l'histoire de la lectio divina. Tout d'abord, les racines bibliques dans l'Ancien Testament. Il y a une page du livre de Néhémie au chapitre 9 qui est importante parce qu'on y lut, on y lit de manière continue le texte biblique. Néhémie, chapitre 9. On commence la lecture continue des Écritures, qui a duré 3 heures. Enfin, il s'agit là, en tout cas, d'une partie importante du Pentateuque, de la Torah. Et on traduit ensuite les passages lus en araméen, pour que le peuple qui ne comprend plus l'hébreu en comprenne le sens. Et face à cette lecture, nous dit le texte, la première réaction du peuple est le repentir. Et ce moment de confession des fautes à genoux dure aussi longtemps que la lecture, 3 heures. 3 heures de lecture, 3 heures de repentir devant le Seigneur, comme pour nous dire que le premier effet fondamental de la lecture est de nous toucher le cœur. Et le repentir, la purification des péchés. Vous savez que dans le culte synagogal de l'époque de Jésus, puisque la synagogue s'est développée à partir du retour de l'exil, et ensuite lorsque le temple de Jérusalem sera détruit, la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu devient tout à fait centrale. On a un exemple de ce culte synagogal dans l'évangile de Luc au chapitre 4, où Jésus reprend la prophétie d'Ésaïe pour annoncer à la communauté stupéfaite que cette parole que vous entendez aujourd'hui est accompli. Dans leur enseignement, les rabbins insistent également sur la lecture de l'Écriture. Simon le Juste, et c'est le premier texte que vous avez sous les yeux, vous avez tous reçu les pages. Le premier texte, Simon le Juste, un rabbin, dit, un rabbin du premier ou début du deuxième siècle, dit « La vie de foi repose sur trois colonnes, l'étude des Écritures, la liturgie et les œuvres de charité. » Et on retrouve ces trois colonnes dans les persévérances dont il est question dans le livre des Actes, les persévérances dans l'enseignement des apôtres, donc l'étude de ce que les apôtres ont dit et écrit ensuite, la fraction du pain et les prières. Dans la première communauté chrétienne, vous avez là une icône d'une fresque du monastère de l'Emmanuel à Bethléem, monastère melkite que j'ai visité au mois de mai dernier, tout à fait étonnant, qui se trouve à 10 mètres du mur. Qui sépare Bethléem du reste de Jérusalem. Et comme vous pouvez le remarquer, il s'agit de l'évangéliste Jean, qui est dans l'attitude caractéristique de celui qui écoute, qui écoute à travers le texte. C'est le début de l'évangile de Jean, où commencement était la parole. Pour les premiers chrétiens, l'écoute persévérante de l'enseignement des apôtres est tout à fait fondamentale, il est source de communion. Il n'y aurait pas de communion dans l'Église s'il n'y avait pas cet enseignement des apôtres. Et l'Écriture, que ce soit l'Écriture de l'Ancien Testament ou bien les lettres des apôtres, sont à lire publiquement ou à méditer personnellement dans l'intimité familiale, comme Timothée qui, dès sa plus tendre enfance, a eu connaissance des Écritures. L'étude des Écritures est structurante et le chrétien s'applique à les connaître depuis son enfance et à les intégrer dans la totalité de sa vie. Que la parole du Christ habite au milieu de vous avec toute sa richesse, dit Paul aux Colossiens. Et ce contact personnel avec les Écritures est la caractéristique essentielle des pasteurs, des ministres, de ceux qui ont responsabilité de parole, d'enseignement. Ils sont serviteurs de la parole. C'est leur première caractéristique d'être serviteurs de la parole. J'en viens maintenant au Père de l'Église et je commence par Origène qui a vécu la fin du deuxième, au début du troisième siècle. C'est une personne importante pour notre sujet parce qu'il est le premier à utiliser l'expression en grec theia anagnosis. Theia anagnosis qui veut dire lecture divine. Qui a été traduit en latin par Lectio Divina. Et dans une lettre qu'il écrit à Grégoire le Thaumaturge, Origène a quitté Alexandrie et s'est établi à Césarée, où Grégoire vivait. Grégoire deviendra ensuite évêque de la ville de Césarée. Quand Grégoire et son frère ont rencontré Origène, ils se sont mis à son école, convaincus d'avoir trouvé un guide pour les conduire à la connaissance du Verbe. C'est aussi une lettre de Grégoire à Origène, et il dit cela dans le cas de cette lettre. Or, voici ce qu'Origène a écrit au futur évêque de Césarée. Et c'est le texte, le deuxième texte que vous avez sous les yeux. Adonne-toi à l'anagnosis, à la lecture des Saintes Écritures. Applique-toi à cette anagnosis avec persévérance. Consacre-toi à la lecture avec foi, dans l'intention de plaire à Dieu. Si, durant la lecture, tu te trouves devant une porte close, frappe, et le portier dont Jésus parle t'ouvrira, le gardien t'ouvrira, t'appliquant ainsi à la theia anagnosis. C'est là qu'on a pour la première fois dans l'histoire de la spiritualité ce terme de theia gnosis, lectio divina en latin. T'appliquant ainsi à la lecture divine, cherche avec loyauté et confiance en Dieu le sens des Écritures divines qui cachent une grande richesse. Ne te contente pas de frapper et de chercher pour comprendre les choses de Dieu. Il est absolument nécessaire que tu pries. Pour t'y exhorter, le Seigneur n'a pas dit seulement « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Il a ajouté « Demandez et vous recevrez ». Alors on trouve dans cette lettre les caractéristiques déjà essentielles de la lectio divina, la lecture, la lectio, qui est la lecture attentive du texte biblique, qui peut être difficile. On n'entre pas comme ça directement dans un texte, ce texte peut résister, peut y avoir une porte fermée. Il faut rechercher de manière persévérante sa signification profonde, la méditation. Et Origène a également conscience que la lecture et la méditation doivent être accompagnées par la prière de foi et la recherche de la volonté de Dieu. Quelques pères de l'Église maintenant est. Tout d'abord, je vous invite à regarder cette image qui est assez caractéristique. C'est une image qu'on trouve dans le monastère, dans la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall, qui vient de Saint-Gall, qui était faite dans la tradition des moines irlandais venus à Saint-Gall au 7e siècle. Et vous avez tout à gauche, Grégoire le Grand. Grégoire le Grand qui est toujours représenté, ou très souvent représenté, avec une colombe à l'oreille qui symbolise l'Esprit Saint, qui l'inspire, qui l'invoque et qui l'inspire en même temps au moment où il lit la Bible. Et vous avez à sa droite Saint-Gall, mais qui vit trois siècles plus tard. Et puis encore un moine du monastère bénédictin de Saint-Gall qui vit encore trois siècles plus tard. Donc vous avez là une représentation de l'importance de la transmission de la parole de Dieu à travers le temps, qui fonde la vie de l'Église, pour dire que cette lectio s'est transmise à travers le temps, cette manière de lire la Bible. Alors, quelques citations de textes de Père de l'Église. Donc, la recommandation de prier sans cesse chez les pères de l'Église, qu'on a vu tout à l'heure, cette prière continuelle, permanente, qui s'est développée dans la prière de Jésus, la prière du cœur. Cette recommandation de prier sans cesse est également jointe à celle de consulter assidûment la Bible. On prie sans cesse lorsque l'on lit sans cesse l'Écriture, lorsque l'on a à la bouche et dans le cœur un passage de l'Évangile. C'est ainsi que Jérôme exhortait une des jeunes romaines qui appartenait à son église de maison, Jérôme avait essayé de faire de vivre le désert au milieu de Rome, en créant une communauté. Et voilà ce qu'il dit, que l'amour de la Lectio occupe totalement ton âme. Que l'amour de la Lectio occupe totalement ton âme. Et un autre père, Ambroise de Milan, donne ce conseil, que vous pouvez lire également. Tout le jour, médite la parole de Dieu, prends comme conseiller Moïse, Ésaïe, Jérémie, Pierre, Paul, Jean, prends comme conseiller suprême Jésus-Christ, afin d'acquérir le Père, parle avec eux, médite avec eux tout le jour. Donc les pères de l'Orient et de l'Occident ont prié ainsi, en s'imprégnant de l'Écriture, par une méditation continuelle. Cassien, que vous pouvez lire également, applique-toi avec constance et assiduité à la lecture sacrée jusqu'à ce qu'une incessante méditation imprègne ton esprit et pour ainsi dire que l'écriture te transforme à sa ressemblance. Cette idée de la transformation opérée par la lecture de l'écriture. Et pour Chrysostome, cette familiarité n'était pas réservée aux moines, mais également, elle est pour chaque fidèle. C'est ainsi qu'il invite ses fidèles à lire l'écriture à la maison, et même à se lever au milieu de la nuit avec femmes, enfants et tout le reste, pour méditer l'écriture. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez lire ça sur le texte nouveau, vous devriez prendre l'écriture et avec votre épouse et vos enfants relire et répéter ensemble la parole écoutée, qui vit au milieu du monde et y reçoit chaque jour des blessures, a bien plus grand besoin de remèdes. Ainsi, y a-t-il encore un plus grand mal que de ne pas lire, c'est de croire la lecture vaine et inutile. Alors, au Moyen-Âge, cette méthode a continué au Moyen-Âge, en tout cas, pas partout, mais en tout cas dans les monastères. J'ai mis là la cathédrale de Lausanne parce que c'est l'époque de Bernard de Clairvaux qui a visité cette cathédrale. Donc, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, on peut dire que la Lectio Divina est restée comme la grande porte d'entrée de la spiritualité dans l'Église d'Occident. Et Bernard de Clairvaux l'a pratiqué. Il a un très beau texte où il compare la lecture méditative comme au roucoulement de la colombe. Et c'est à cette époque que l'on fixe les différentes étapes de la lecture, en particulier dans ces étapes-là, dites par le moine Guigues le Chartreux, un Chartreux du XIIe siècle. Donc les quatre étapes, lecture, lectio, méditation, oratio, l'oraison, la prière, et contemplatio, qui est la contemplation. Voilà ces quatre étapes, lecture, méditation, prière et contemplation. Avec ce texte qui l'explique bien, la lecture recherche la douceur de la vie bienheureuse, la méditation la trouve, la prière la demande, la contemplation la goûte, La lecture apporte une nourriture substantielle à la bouche, la méditation mâche et triture cet aliment, la prière obtient le goûter, la contemplation est la douceur même qui réjouit et refait. Je reviendrai dans la deuxième étape de mon exposé sur ces différentes étapes de la Lectio Divina. Toutefois, à cette même période, il y a l'émergence de la scolastique. La scolastique, elle, aura comme effet de dissocier la lecture de la méditation. Il se passe quelque chose de très important dans l'histoire de l'esprit humain, dont on a encore aujourd'hui les conséquences, la dissociation de la spiritualité de la raison, de la dissociation de la lecture de la méditation, c'est-à-dire au lieu que la lecture, et on le vit encore dans les universités aujourd'hui, il y a une dissociation entre la lecture savante du texte au moyen des outils scientifiques de l'exégèse, de la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit dans l'Église, mais pas à l'université. Alors, l'origine de cette dissociation, c'est cette époque-là, par la scolastique, qui, au lieu de conduire de la lecture à la méditation, a conduit à la question. Et à la disputation, à la mise en discussion. Alors, l'ordre, c'était pas lectio, meditatio, oratio, mais lectio, quaestio, et disputatio. On utilise le texte ensuite pour disputer, se disputer, discuter, questionner. C'est l'approche critique qui en soi est valable, mais lorsqu'elle est dissociée de la démarche de spiritualité, d'approfondissement, est à mon sens appauvrissante. Là, on entre déjà dans une grande discussion. Toutefois, le monde monastique, et en particulier les cisterciens, donc Saint Bernard et la suite de Saint Bernard, résistera à cette approche qui sera ensuite radicalisée par les rationalismes occidentaux. En effet, toute la règle de Saint Benoît commence par « écoute ». Écoute, mon fils, l'enseignement de ton maître. Et puis, tout au long de la règle, il est dit que ce qui est d'abord à écouter, c'est l'écriture, dont il est dit qu'elle est la règle la plus rapide pour la vie humaine. Celui qui se met à l'écoute de l'écriture avance sur le chemin avec le Seigneur. Donc, cette approche restera présente dans les monastères, mais elle sera, et c'est ma prochaine étape, redécouverte, réactualisée, avec d'autres mots, par la réforme. Vous avez là Zwingli, tous reconnus. Et on trouve des pages admirables sur la Lectio Divina dans les actes du synode de Berne et d'autres textes de la Réformation. Cet acte du synode de Berne de 1532 qui a eu une certaine importance également dans le pays de Vaud, puisque le pays de Vaud est devenu bernois. Donc c'était un des textes confessionnels de l'Église protestante dans le pays de Vaud jusqu'au début du XIXe siècle. Et ce texte rédigé par Capiton de Strasbourg, qui est un conseil aux prédicateurs, dit ces choses très belles sur la manière de lire la Bible, qui nous rappelle tout à fait ce qu'était la lectio divina chez les pères. Vous pouvez le lire également, je le lis. L'ordre que nous devons suivre, c'est avant de tout de prendre en main la Bible, de commencer par la prière. Prière qui doit être sincère et selon l'Esprit. Ce qui caractérise cette prière, c'est que le Saint-Esprit pousse celui qui prie tout d'abord à rendre grâce à Dieu, avec un grand amour pour les bienfaits reçus. Il en résulte de la consolation et une foi solide. Puis l'Esprit pousse à demander que le Seigneur veuille bien nous délivrer de la détresse, des défauts et de l'ignorance qui pèsent encore si malignement sur nous. En outre, celui qui lit doit se remémorer d'autres passages de l'Écriture, ainsi que ses expériences de foi à ce jour, en ce qu'il paraît savoir de contraire à ce qu'il comprend maintenant, et prier pour qu'il se concilie. Il faut persévérer dans cet exercice, jusqu'à ce que la vérité de l'Écriture resplendisse dans le cœur et qu'on puisse méditer sur la connaissance reçue. Ensuite, il faut prendre en main les livres et les commentaires qui ont été écrits dans notre temps et dans le passé pour les comparer avec la compréhension à laquelle on est arrivé. C'est ainsi qu'on peut les lire cum judicio, avec discernement, pour mieux comprendre et pour devenir meilleur. On a là, quand bien même le mot lectio divina n'est pas utilisé, on a là tous les ingrédients de ce qu'est la lectio. Invocation de l'esprit, lecture approfondie du texte, comparaison avec d'autres textes bibliques, référence au Père de l'Église et aux commentaires récents, méditation sur la relation entre le texte et ma propre vie, que dit le texte dans ma propre vie, c'est le sens de la méditation, et prière. Prière d'un cœur qui a été touché par la parole. Septième étape, le piétisme. En 1675, Philippe Jacob Spener propose dans ses Pia Desideria, en programme de réveil de l'Église, qui aura une influence considérable dans le protestantisme. Comme principe de base, il écrit la chose suivante que vous pouvez lire avec moi. Il est certain que le contact approfondi avec la parole de Dieu, pas seulement lors de l'écoute d'une prédication, mais aussi dans la lecture, la méditation et le partage, doit être le moyen privilégié pour améliorer quelque chose. Donc on a là déjà l'embryon des groupes bibliques, des cellules de prière où on utilise la Bible, où on prie à partir de la Bible. N'est-ce pas ce que notre pieux Luther a ardemment recherché en voulant conduire les gens à une lecture assidue de l'Écriture? Spener donne également les recommandations suivantes, conseils pratiques. Tout d'abord, chacun devrait avoir une Bible pour la lire chez lui. À une époque où, même dans le protestantisme, ce n'était pas chose courante. Il y avait, au début du 19e siècle, une enquête qui a été faite dans le canton de Vaud pour savoir combien de familles avaient le Nouveau Testament. Parce qu'une des ordonnances de leurs excellences de Berne disait que chaque couple qui se marie devait avoir un fusil et un Nouveau Testament. Mais l'enquête qui a été faite a donné une carence de Nouveau Testament. C'est encore... c'est encore davantage en siècle auparavant. Deuxième principe, des rassemblements communautaires doivent être organisés pour faire connaître la Bible. Où on lit le texte de la Bible les uns après les autres sans aucune explication. Avec, comme dans les monastères, où on lisait des textes pendant les repas qui étaient pris en silence, comme à Saint-Goût, vous voyez. Mais troisième chose, encore beaucoup plus révolutionnaire, c'est qu'il propose des cercles d'études de la Bible. Des cercles d'études, des petits groupes, doivent être formés. Il dit, comme Paul le décrit dans la première lettre aux Corinthiens, où l'on voit qu'il n'y a pas une seule et unique personne qui enseigne les autres, mais où d'autres personnes peuvent s'exprimer, parce que Dieu leur a donné grâce et connaissance. À peu près à la même époque, un pasteur réformé parisien, Pierre Jurieux, discerne trois étapes dans la vie spirituelle, dans son traité sur la dévotion. Et ces trois étapes, tout à fait classiques, la lecture, la méditation et la prière. La dévotion, écrit-il dans le texte que vous pouvez lire, la dévotion est composée de trois principaux exercices, la lecture, la méditation, la prière. Un peu de lecture sera le premier échelon de l'élévation. Un peu de méditation sur cette lecture relèvera d'un degré plus haut. Et après cela, une courte prière sur la lecture et la méditation la conduira au suprême détachement. Après quoi, elle reviendra tout de nouveau à la lecture et à la méditation dans le même ordre. Voilà, un programme de télévision en boucle, de télévision locale. À une époque où il n'y avait pas la télévision, c'était la lecture de l'écriture qui était pratiquée en boucle. Enfin, je viens au la huitième étape, étape importante en particulier pour l'Église catholique qui a une grande signification écuménique, qui participe au renouveau biblique dans l'Église catholique. Et lorsqu'on commence à lire la Bible ensemble, on se rend compte qu'il y a tant de choses qui nous unissent. Donc cette manière de lire la Bible, qui était vivante dans la tradition bénédictine, est sous diverses formes dans les églises de la Réforme, fut à nouveau proposée aux fidèles de l'Église catholique par le Concile Vatican II, en particulier avec la Constitution sur la parole de Dieu, qui s'appelle Dei Verbum, promulguée en 1965, où on peut lire, et vous pouvez lire avec moi, il est nécessaire que tous conservent un contact personnel avec la Sainte Écriture à travers la Lectio Divina, à travers une méditation attentive, et qu'ils se rappellent que la lecture doit être accompagnée par l'oraison. C'est certainement l'Esprit Saint qui a voulu que cette forme d'écoute et de prière sur la Bible ne soit pas perdue à travers les siècles. Et tout récemment, à l'occasion du 40e anniversaire de Dei Verbum, l'année dernière, le pape Benoît XVI a dit que la Lectio Divina consiste, vous pouvez lire avec moi, en une lecture assidue de la Sainte Écriture accompagnée par la prière. Par elle s'actualise le dialogue intérieur, grâce auquel, tout en lisant, on écoute Dieu qui parle, et en priant, on lui répond dans une confiante ouverture du cœur. Cette pratique, si elle est bien appliquée, portera à l'Église un nouveau printemps spirituel. Donc, c'est intéressant de voir que pour l'Église catholique, maintenant, la lecture, la méditation de la Bible porte au renouveau, au printemps spirituel. Et c'est tout à fait une convergence avec la spiritualité protestante pour qui tout commence, tout renouveau, tout réveil, tout approfondissement commence par « Au commencement était la parole ». Et dernière étape dans ce raccourci historique, certains développements œcuméniques, et j'aimerais également dire deux, trois choses sur l'école de la parole en Suisse romande, dont vous avez là le logo et puis la présentation du dernier livret, paru cette année sur l'évangile de Jean avec le thème « Le Christ, lumière pour tous ». Donc, la Lectio Divina est d'abord une méthode individuelle, une démarche